CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Ah bah tiens, c'est le mag du mardi avec, vous le savez bien, les haut-parleurs, carte blanche, en roue libre, notre café associatif, 34 rue Alibert aujourd'hui, avec Loulou et un invité. Coucou,
et
salut.
Et un invité. Et sans Nathalie, mais avec un invité.
Ouais.
Et nous recevons avec...
Seul mais accompagné.
Avec nous recevons Laurent Termignon, qui est le réalisateur d'un documentaire consacré à Alexandre Marius Jacob, que l'on va diffuser aux haut-parleurs le 14 février, vendredi 14 février. Un documentaire d'une vingtaine de minutes. Enfin, on va vous parler de tout ça. On se retrouvera pour en discuter donc le 14 février autour d'un repas. Voilà, une rencontre avec Laurent, qui est par ailleurs mon collègue de travail.
Absolument.
Donc, on va lui poser quelques questions.
Les haut-parleurs.
Je n'en sortirai que par la force de baïonnette.
Ouais, je vais manger.
Allez-y.
Messieurs, vous savez maintenant qui je suis. Un révolté vivant du produit des cambriolages. De plus, j'ai incendié plusieurs hôtels et défendu ma liberté contre l'agression d'agents du pouvoir. J'ai mis à nu toute mon existence de lutte. Je la soumets comme un problème à vos intelligences. Ne reconnaissant à personne le droit de me juger, je n'implore ni pardon ni indulgence. Je ne sollicite pas ceux que je hais et méprise. Vous êtes les plus forts. Disposez de moi, comme vous l'entendrez, envoyez-moi au bagne ou à l'échafaud, peu m'importe. Mais avant de nous séparer, laissez-moi vous dire un dernier mot. Alors voilà, on va parler de Alexandre Marius Jacob, qui est, que moi je connaissais un petit peu de nom par rapport à cette espèce de réquisitoire, enfin une défense un petit peu de l'anarchisme, de ce personnage atypique qui faisait partie un petit peu d'un gang de cambrioleurs.
Absolument.
Et qui, avant d'être envoyé au bagne à Cayenne, s'est défendu par ce texte qui est magnifique, qui dure 4 pages, et que l'on veut vous faire découvrir le 14 février au Barasso. Et Laurent, donc, toi, tu as réalisé un documentaire qui s'appelle Alexandre Marius Jacob, pourquoi j'ai cambriolé. Tu l'as réalisé en 2006.
Oui. Oui, mais il y a déjà quelques temps.
Il y a déjà quelques années.
Ah, oui.
Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette théorie de la reprise individuelle dans le courant libertaire? C'est vite dit, mais c'est un petit peu ce qui sous-tend un petit peu...
Alors, la reprise individuelle dans le courant libertaire, elle existe à plusieurs niveaux. Hein. Jacob va en faire quelque chose qui va être une industrie. C'est-à-dire qu'il s'agit pas là de s'enrichir, de faire du parasitisme social. Il s'agit là de reprendre aux bourgeois l'argent qu'ils considèrent, que ces anarchistes considèrent comme avoir volé aux prolétaires. Donc c'est une restitution qui doit servir forcément à la cause libertaire. Donc c'est reversé, les produits des cambriolages sont reversés aux associations et aux anarchistes, évidemment. Évidemment.
C'est-à-dire qu'on ne parle pas de cambriolage, on parle de reprise individuelle, quoi. Alors, raconte-nous un petit peu un peu sa bio à ce personnage un peu atypique qui a réussi à constituer un petit peu toute une, pas une communauté, mais un regroupement comme ça de cambrioleurs, quoi, qui ont sévi au début du XXe siècle.
Oui, c'est une bande très très organisée, hein. Donc Jacob, il est enfant. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas traité dans le documentaire, mais l'enfance de Jacob est aussi un voyage étonnant. Il a déjà fait 2 fois le tour du monde, Jacob, quand il a 14 ans. Donc il a été marin. Il a fait le tour du monde, il a vu plein de choses, et puis il est converti aux idées anarchistes une blague potache, assez potache, qui fait qu'il met du sulfate dans dans une enveloppe et puis qu'il la glisse dans l'urne et que l'urne prend feu et que l'élection est annulée et qu'il faut tout refaire et que ça embête bien le pouvoir. Et donc voilà, pour une blague comme ça, il va être qualifié d'anarchiste. Et à l'époque, c'est Barbe Bleue, hein, anarchiste, c'est Barbe Bleue, quoi. Donc voilà, il va être qualifié d'anarchiste et il trouvera plus de travail. Chaque fois, la police viendra, dira à son patron, mais tu sais qui tu embauches là, tu embauches. Hein. Et ça, c'est ce chat giflé adolescent qui est Jacob, qu'il ne cessera d'être. C'est-à-dire que à ce moment-là, puisque c'est le pouvoir qui lui déclare la guerre, et Jacob se défend.
Passionnant.
Alors, à partir de là, évidemment, va se grouper autour de lui des gens qui va aller chercher, qui viennent effectivement de milieux assez interlopes. Hein. Il y a de tout. Il y a d'anciens militaires, il y a des déserteurs, il y a toutes sortes de gens qui décident que tous les produits des cambriolages qu'ils feront ensemble, 10%, enfin chacun reversera ce qu'il voudra à la cause, mais que le minimum, ça serait 10%. Voilà. Que le reste paye les risques, comme on disait. Mais on s'aperçoit que Jacob mène une vie de moine, c'est-à-dire il mange dans des gargotes à 10 sous, il mène une vie tout est réinvesti dans le cambriolage, dans la révolte, c'est-à-dire qu'on se fait importer des outils des États-Unis, on se fait livrer, il achète une quincaillerie, il achète un magasin de coffre-fort, il achète une friperie pour se déguiser, ils ont une bijouterie où ils refondent. Voilà, c'est une industrie. Jacob invente là. Alors, ce n'est pas le premier. Hein, avant lui, Clément Duval avait proclamé qu'il n'était pas un voleur, mais un justicier. Ce n'est pas le premier, mais c'est la première fois que vraiment, durant toute la longueur d'un procès, Jacob développe cette idée. Et c'est constant chez lui.
Et c'est apparemment, ce serait un des personnages qui aurait influencé un peu la création d'Arsène Lupin. Par rapport à ça, tu es assez critique.
Alors, je suis très très critique sur le personnage Jacob Arsène Lupin. D'ailleurs, la petite commune de Reuilly dans l'Indre où est enterré Jacob fait le vent comme Arsène Lupin. Hein. C'est-à-dire, si vous voulez voir la tombe d'Arsène Lupin, allez donc voir la tombe de Marius Jacob. Il est là, il est enterré là, Arsène Lupin. Moi, je croyais que c'était dans l'aiguille creuse ou quelque chose comme ça, mais non, c'est Jacob. Alors ça, c'est quelque chose dont on n'a trouvé aucune preuve historique, vraiment. Maurice Leblanc aurait été effectivement reporter à ce moment-là pour un journal de l'époque qui s'appelait Ruy Blas, aurait assisté au procès Jacob. Qu'il en soit revenu avec dans l'idée du gentleman cambrioleur, oui, bah peut-être, pourquoi pas. Ou a-t-il seulement couvert ce procès ? On ne le sait même pas. On ne le sait pas. Donc faire un rapprochement. Et puis c'est presque, c'est un personnage de fiction. Arsène Lupin, c'est entre le prolétaire et l'aristocrate. Il est soit, mais il n'a pas la dimension du personnage Jacob qui lui est bien réel. Donc voilà, après, les gens ont fait commerce, oui, on a beaucoup fait commerce sur Jacob Arsène Lupin.
Ouais, ouais.
Oui, oui.
Donc voilà, tu connaissais David ?
Pas du tout. C'est une vraie découverte.
Ouais,
passionnant.
Oui.
Et passionné, Laurent.
Oui.
Ah oui, absolument. Ça ne m'ennuie jamais de parler de Jacob.
On va le garder pour la prochaine émission.
Ah bah oui.
Bon, merci Laurent. Hein. Je rappelle
moi,
le rendez-vous. On sera le vendredi 14 février, on se retrouve à 20h. Le documentaire, comme je le disais en début d'émission, dure une 26-27 minutes, c'est relativement court, donc on discutera autour d'un repas à la suite de la projection dans la pièce du fond. Venez nombreux, c'est une soirée tranquille, bon, vous voyez Laurent sait en parler.
Très animé.
Et je pense qu'il est intarissable là-dessus, à découvrir. Alors donc, Alexandre Marius Jacob, pourquoi j'ai cambriolé, ça c'est le 14 février. On revient un petit peu à cette semaine pour vous dire rapidement que c'est Nico Pacha et Darshan qui se collent à la cuisine cette semaine pour préparer le menu de jeudi midi. Qu'à 14h, on propose, une personne dont j'ai oublié le prénom, je m'en excuse, propose le massage assis, qui est un massage assez court et efficace, qui dure une quinzaine de minutes, qui se pratique sur une chaise qui est posée dans la pièce du fond. C'est un massage qu'on peut faire habillé. C'est à prix libre, elle propose ça le jeudi après-midi à partir de 14h, à découvrir, ça a beaucoup plu la semaine dernière, et c'est la deuxième fois qu'on continue. là-dessus. Et samedi 8 février, on a un concert qui est proposé par Élysée, où on retrouve un garçon qui s'appelle Arthur, qui habite à la Mélangeuse, qui vient faire son tour de chant, qui s'intitule « Arthur chante des chansons même pas de lui ». Voilà, c'est de la chanson pour les petits et les grands, des chansons qu'il a écrites lui-même, mais aussi des reprises. Enfin, ça a l'air assez, ça reste de la chanson française. Ça, c'est samedi soir, c'est proposé par Élysée. C'est à 20h30 autour, toujours prix libre avec un petit repas à l'arrivée.
On sent que c'est le mois de février. C'est reparti.
Ah ouais,
c'est
ça repart, mais, le café mais comme des fous en mars. Enfin, on a beaucoup de choses en mars, en avril aussi, en février, on repart bien, ouais.
www.leoparleur.com pour suivre votre actualité, vos agissements et tout le programme avec les rendez-vous des ateliers, l'intervention sous peu en podcast sur le site cfmradio.fr et on se retrouve donc la semaine prochaine avec Laurent pour poursuivre cette conversation autour de la projection de ce film documentaire le 14 février au Café Associatif Léo Parleur. Une rapide musique et on parle de théâtre dans un instant avec la représentation Gros Câlin ce jeudi au théâtre municipal de Villefranche de Rouergue, Monique Fréchaville, coprésidente, en compagnie du metteur en scène et un peu comédien aussi, celle sur scène jeudi. C'est la suite du programme. Belle journée.
Gros câlin.
Ciao.
Clarisse, j'aurais aimé savoir comment vous avez créé la compagnie Indigo.
Nouvelle proposition de l'association Les Espaces Culturels Villefranchois.
Du cirque, de la danse, du théâtre évidemment, de la poésie.
Du hip-hop, du jazz, de la danse contemporaine. C'est ce qu'on pourra voir ce soir.
Avec le metteur en scène et les comédiens qui viennent répondre aux questions des spectateurs.
On a commencé à écrire le spectacle en voulant raconter toute l'évolution des années 50 jusqu'à aujourd'hui avec beaucoup d'humour.
Retrouvez tout au long de l'année la programmation des Espaces Culturels Villefranchois dans le MAG à 12h et 17h.
Bonjour Denis Ray. Ici Monique Fréjaville, présidente des espaces culturels Villefranchois ATP. Nous sommes ravis de vous accueillir à Villefranche pour le spectacle Gros Câlin ce jeudi 6 février à 20h45 au théâtre municipal. Bon, nous allons déjà essayer de vous demander pourquoi vous avez choisi un auteur comme Romain Gary pour le mettre en scène.
Mais bonjour Monique, merci de me recevoir, merci d'accueillir le spectacle. Alors, pourquoi Gros Câlin, pourquoi Romain Gary? J'ai une passion immodérée pour cet auteur qui a eu une vie multiple. Compagnon de la Libération, cinéaste, scénariste, consul de France, écrivain évidemment. Et qui a comme ça une vie exemplaire dans le sens où il a renouvelé sa vie perpétuellement. Et c'est un peu ce que nous faisons nous aussi les comédiens. On essaie d'être un autre, de changer de peau, de vivre plusieurs vies en une. La vie nous paraît parfois insatisfaisante et Gary avait un peu cette idée-là. Enfin, il subissait ça. Donc c'est un auteur dans ce sens que j'adore. Et Gros Câlin est le premier des romans qu'il a écrit sous le pseudonyme d'Émile Ajar et qui propose une langue qui est, à mon sens, juste magnifique, quoi, qui est complètement désordonnée dans une oralité magnifique et dans une syntaxe très particulière, enfin, qui fait théâtre presque à elle seule.
Mais justement, c'est vous qui l'avez adapté pour le théâtre, puisque ce n'est pas une œuvre de théâtre.
Voilà, c'est un roman de 300 pages, là, adapté, c'est un grand mot, mais quand même, enfin, j'ai fait des coupes, quoi. Découpage, donc j'ai rien réécrit, évidemment. J'ai juste sacrifié des chapitres entiers, quelquefois douloureusement, parce que j'adorais tout, mais bon, il fallait pas faire un spectacle de 5 heures. Donc voilà, j'en ai fait une réduction en faisant des choix et le spectacle...
Excusez-moi de vous couper la parole, mais c'est ce que vous venez de dire. En fin de compte, on peut peut-être voir un lien entre Gros Câlin, c'est-à-dire ce python-là qui mue, un serpent, quoi, et qui se transforme en Romain Gary. Je crois qu'on peut.
On peut y aller, oui. Oui, le python, c'est le symbole, entre autres, de l'animal qui mue. Mais qui aussi, c'est ce que propose le texte, est dans des trajectoires très sinueuses, s'enroule, se déroule, fait des nœuds. Et donc le texte est plein comme ça de digressions, d'allers-retours, de d'égarements, et puis on revient au sujet, enfin on garde toujours le film, et c'est aussi le moyen pour Gary d'avoir un texte comme ça très elliptique, très a priori décousu, mais en fait, il sait très bien où il va, le reptile.
On dirait bien, oui.
Oui.
Puisque j'ai la chance d'avoir vu la pièce à sa création, c'était la création, je crois, au théâtre du Pavé à Toulouse. Donc, on a eu bien cette impression. Hein. Et j'aimerais bien que vous présentiez à nos futurs spectateurs les différents thèmes de cette pièce.
Alors, pour faire peut-être un petit résumé, enfin, en tout cas, la fable, c'est l'histoire de Monsieur Cousin, qui est un petit employé de bureau ordinaire, très, très introverti, très timide, qui a un tel manque de tendresse qu'il a adopté un python, qu'il a baptisé Gros Câlin, d'où le titre, parce que ce python s'enroule autour de lui copieusement, généreusement, et lui fait donc des gros câlins. Et ça lui apporte une tendresse énorme, une sorte de sécurité dont il manque dans sa vie de tous les jours. Et parallèlement à ça, il est amoureux d'une collègue de bureau qui s'appelle Moselle Dreyfus, qui est une Guyanaise, c'est important dans le texte, qui porte des bottes en cuir à mi-cuisse, donc ça fait un peu rêver, pour ne pas dire fantasmer, M. Cousin. Et sa problématique à M. Cousin, c'est qu'il pense que cet amour est réciproque, l'amour qu'il a pour Moselle Dreyfus. Est-ce qu'elle acceptera de vivre avec un python, de partager avec lui la vie d'un python, et le cas échéant, est-ce que le python, lui, qui est un peu possessif, voudra bien que Mlle Dreyfus vive aussi dans le même appartement? Donc il y a comme ça une problématique, est-ce que ces deux passions, le python et Mlle Dreyfus, sont compatibles? Voilà, après, autour de ça, il y a d'autres péripéties.
Oui, mais en fait, c'est quand même un drame de la solitude.
Ah, complètement, c'est l'histoire d'une solitude, énorme, pour en arriver à adopter un python pour combler un manque de tendresse, parce que le python serre très fort quand il s'enroule autour de vous. Oui, on peut parler de solitude, oui.
Oui, c'est très difficile aussi d'élever un python, parce que dans le texte, on voit qu'il faut lui donner à manger à ce python.
Voilà, alors le python, il y a effectivement, comme on l'a dit, c'est ce drame de la solitude, donc là, d'une certaine façon, l'histoire est tragique, enfin pas d'une certaine façon, mais elle est tragique, c'est l'histoire terrible d'un homme seul, mais le python... Et l'occasion de convoquer des scènes, je crois, burlesques, parce qu'effectivement, il refuse, enfin, Il n'a pas très envie de nourrir son piton de souris vivantes.
Mais oui.
Donc il faut le faire nourrir par d'autres. Ça pose des problèmes de voisinage. Il se retrouve plusieurs fois au commissariat pour devoir s'expliquer. Enfin, il est donc mal vu parce que plutôt que d'avoir un chat ou un chien, il a un piton. Et il est un peu étrange. Ce cousin, je parle de lui, hein, est un peu étrange aux yeux de ses collègues et de ses voisins et de son entourage. Et donc c'est vrai que ça crée quelquefois des situations ubuesques, on pourrait dire, en tout cas décalées.
Quant au titre, il peut un peu poser question. Alors, je vous raconte une petite anecdote, c'est que dimanche, j'ai annoncé lors d'un spectacle que nous aurions notre prochain spectacle qui s'intitulait Gros câlin. Tout le monde a bien ri dans la salle. J'ai dit non, mais vous inquiétez pas, c'est très correct, hein, parce que gros câlin, oui, ça peut évoquer certaines choses. Mais bon, on sait que c'est très correct et qu'en fin de compte, c'est bien plus, ça va bien plus loin que ça, quoi. Gros
bien
câlin.
Sûr, oui, oui.
C'est pas.
Il y a une.
En fait, c'est un nom propre là. C'est une appellation.
Oui, tout à fait. Il
voilà.
s'appelle Gros câlin comme il s'appellerait Jean-Paul ou je ne sais quoi. Oui. C'est Gros câlin avec un trait d'union.
Oui.
Hein, c'est vrai.
Ah oui. Oui.
Donc c'est son prénom.
Si on l'a mis.
Ah, ça, je ne sais pas, mais
en tout cas, normalement, il y a un trait d'union.
Normalement, il y a un trait d'union. C'est vrai que c'est le prénom du piton. Oui. Et après, il y a peut-être une dimension vaguement érotique, un peu du chez Ajar, voilà, du piton quand même qui s'enroule, qui est aussi le serpent étant quand même voilà le symbole de d'une forme de sexualité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, mais le spectacle ne parle pas de ça. Enfin,
non,
c'est
non,
l'histoire
pas du
d'une solitude.
Pas du tout. Et donc c'était quand même bon. C'est un seul en scène. Puisqu'on appelle ces spectacles ainsi. Et comment avez-vous conçu la mise en scène? Parce que vous êtes l'adaptateur donc de la pièce, vous êtes le metteur en scène et vous êtes le comédien. Donc comment avez-vous conçu la mise en scène et la scénographie?
Ben écoutez, j'y travaille. C'est un peu voilà, c'est pas toujours ce qu'il faut faire hein, de travailler tout seul, mais j'avais envie de comme un enfant dans sa chambre d'avoir le droit de me tromper, d'essayer plein de choses sans le regard d'un metteur en scène, sans le filtre d'une direction telle ou telle, voilà. Donc j'ai travaillé tout seul. J'ai quand même invité quelques amis de temps en temps à venir voir des bouts de répétition pour voir si quand même je faisais pas fausse route et si quand même on comprenait ce que je faisais et si ça avait de l'intérêt. Donc voilà, il y a quand même eu des jalons, des yeux attentifs et constructifs qui sont venus m'aider. Mais c'est vrai que j'avais envie, voilà, parce que Gary propose ça, c'est la force de l'imagination chez Gary, et j'avais envie donc d'un spectacle hyper dépouillé. Il y a un type, enfin c'est moi, un acteur, un texte sur un plateau nu, et le spectateur se fait ses propres images. Enfin c'est très facile, hein, je veux dire, mais c'est lui aussi qui invente avec son imaginaire, le spectateur, les protagonistes dont il est question, les décors, les lieux. Voilà, on a juste pour moduler les choses et puis rendre quand même l'image jolie, travailler les lumières pour voilà signifier géographiquement des endroits récurrents, voilà des ambiances chaudes, froides en fonction des émotions de Monsieur Cousin. Mais voilà, c'est un spectacle nu dans le sens où voilà, il y a un acteur, un texte et l'imagination.
Oui, et donc la parole est très importante.
Oui.
Voilà.
Oui, c'est une prise de parole en direct.
C'est ce qui est aussi très intéressant. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour cela que beaucoup de professeurs l'ont choisi dans le cadre de Art vivant au collège. Pour deux choses, la parole, le texte, le style, etc. Et aussi l'imaginaire dont vous avez parlé. Parce que c'est important pour les élèves de pouvoir faire travailler l'imaginaire dans une société où on est toujours sur des choses virtuelles, etc. Mais qu'on vous impose, en fait. Donc, moi, je trouve que c'était très bien. Et nous avons beaucoup de troisièmes, donc de Villefranche-Jouergue et des alentours, qui ont assisté à vos interventions. Donc, des interventions qui... je pense vont avoir un impact puisqu'ils vont venir voir le spectacle. Et vous pourrez peut-être après rapidement, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, faire un bord de scène pour savoir ce qu'ils en ont pensé.
Bien sûr, oui, je leur ai proposé. Je crois qu'au niveau du timing, ça va être un peu serré, mais volontiers. Moi, je suis en tout cas très très friand de leur retour parce que je les ai rencontrés classe par classe là depuis 48 heures pour voilà leur raconter un peu tout ça et.
Je pense que c'est très important ces interventions dans les collèges, dans les établissements, avant la représentation, parce que Enfin, ça les motive quand même. Ça les motive et puis ils comprennent mieux. Ouais. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous qui les avez côtoyés là ces deux,
c'est
trois
sûr.
Jours.
Non, mais d'expérience, c'est toujours mieux de rencontrer les jeunes spectateurs et a fortiori les collégiens avant les spectacles, parce que voilà, quand ils viennent voir un spectacle, ils ont rencontré le ou les comédiens, donc c'est il y a une affinité, enfin il y a un contact qui s'est fait. Après, je garantis pas que ça les passionne, on verra bien, mais en tout cas, ils ont peut-être un peu plus, une écoute plus attentive, une curiosité, j'espère plus grande du fait de ce qu'on a pu raconter ensemble, quoi. On a un peu échangé avec tout.
Et puis il y a quand même aussi quelque chose qu'il faut bien dire à nos spectateurs futurs, c'est que c'est pas parce que des élèves ont eu des interventions et que vous êtes allés dans les classes et tout que c'est un spectacle pour jeunes. C'est un spectacle tout public, absolument.
Complètement, tout public.
Et pas du tout réservé aux jeunes comme quelquefois on l'entend. D'ailleurs, c'est un peu bizarre cette dichotomie là entre les spectacles pour jeunes, les spectacles adultes, et là c'est un spectacle vraiment tout public, parce que je trouve qu'il est bon de rappeler en effet que Romain Gary, en fait, on l'a beaucoup plus connu, enfin j'ai l'impression, sous le nom d'Émile Ajar, non, avec La Vie devant soir, et puis c'est quelqu'un qui a eu deux Goncourt quand même, c'est spécial, quoi. Seul, je suppose, qui a eu deux Goncourt. Non.
Ben en fait, il a eu un Goncourt sous le nom de Gary, avec Les Racines du Ciel, et il a eu un deuxième Goncourt, ce qui normalement est impossible, sous le nom d'Émile Ajar, parce que personne savait qu'Émile Ajar était Romain Gary. Et vous avez raison, il en a souffert d'ailleurs à la fin de sa vie pour se renouveler, pour avoir une nouvelle force d'écriture. Il a pris le masque d'Émile Ajar et du coup, son écriture est très libérée, très débridée dans les écrits d'Émile Ajar. Et il a beaucoup souffert de ça. La critique, il raconte à des émissions de télé, les critiques lui disent, mais mon pauvre Romain Gary, vous ne savez plus écrire, lisez Ajar, voilà un grand auteur. Et bien sûr, il riait dans sa barbe en disant, mon pauvre critique, si tu lisais un peu mieux, peut-être que tu verrais que...
Ils n'ont pas vu.
Ajar et Gary, c'est un peu la même personne, mais ils n'ont pas vu. Et je crois que les critiques, on a voulu à Gary longtemps, parce que c'était un auteur dans les années 80 un peu... délaissé, je crois, un peu.
Oui,
il s'est moqué du monde littéraire ouvertement et ça ne leur a pas plu dans les milieux parisiens.
Très bien. Donc, je pense que nos spectateurs vous attendent avec impatience, n'est-ce pas?
Le
spectacle Gros Câlin, que nous allons donc avoir jeudi à 20h45, je le rappelle, au Théâtre Municipal. Merci Denis et à très bientôt.
À très bientôt, c'est moi qui vous remercie, Monique, merci.
Clarisse, j'aurais aimé savoir comment vous avez créé la compagnie Indigo.
Nouvelle proposition de l'association Les Espaces Culturels Villefranchois.
Du cirque, de la danse, du théâtre évidemment, de la poésie.
Du hip-hop, du jazz, de la danse contemporaine. C'est ce qu'on pourra voir ce soir.
Avec le metteur en scène et les comédiens qui viennent répondre aux questions des spectateurs.
On a commencé à écrire le spectacle en voulant raconter toute l'évolution des années 50 jusqu'à aujourd'hui avec beaucoup d'humour.
Retrouvez tout au long de l'année la programmation des Espaces Culturels Villefranchois dans le MAG à 12h et 17h.